Jusque-là, nous avions bénéficié d'un très beau temps, mais le matin du 12 avril, nous fûmes surpris par une tempête de sud-ouest d'une violence inouïe. Elle ne dura qu'une heure dans son paroxysme, mais pendant ce laps de temps, elle emporta au loin deux traîneaux et nous obligea à rester étendus face contre terre. Comme nous avions marché pendant toute la nuit, une nuit que le soleil n'avait cessé d'éclairer, nous étions rompus de fatigue. Dès que le vent fut tombé, nous ramassâmes nos affaires éparpillées et nous nous effondrâmes dans nos sacs de couchage où nous nous endormîmes immédiatement. Nous savions que la glace se convulsait dangereusement autour de nous. Les paupières étroitement closes, nous avions vaguement conscience d'entendre un lointain grondement de canon et une fracassante décharge de mousqueterie. Sans doute était-ce le résultat de la tempête qui avait agité la mer sous la glace, mais nous ne nous en soucions guère, nous dormions. Dans mon rêve, j'eus l'impression qu'un messager me secouait par l'épaule et me pressait de me lever, debout, debout. Ce n'était ni Clark ni Mew, car l'un et l'autre dormaient dans leur sac de couchage quand je me levai. Il devait être aux environs de midi. Je restai assis, le regard fixe pendant quelques minutes, et ma mémoire engourdie me rappela que Clodagh m'avait instamment prié d'être le premier, pour elle. C'était étonnant comme en ce moment, je faisais peu de cas de la comtesse Clodagh, installée dans son monde irréel et douillet, et comme je me moquais de la fortune qu'elle convoitait. Toutes les richesses qui m'environnaient me laissaient indifférent. Mais cette sommation « soit le premier » était profondément ancrée dans mon esprit et ne cessait de me tracasser. Résolument, comme une bête prête à courir au précipice, je me levai en frottant mes yeux malades. La première chose que j'ai remarquée quand j'eus l'esprit un peu plus éveillé fut que la glace était dans un extraordinaire état d'agitation. Pourtant, la tempête s'était apaisée. Mes yeux embrassaient une plaine d'une éclatante blancheur qui s'étendait à perte de vue. Elle était parsemée de galets et de météorites scintillants, certains énormes comme des canons, la plupart gros comme des bras. Cette plaine se désagrégeait maintenant de façon dramatique. Des abîmes s'ouvraient. Sur leurs bords, des blocs chaotiques roulaient, reculaient en faisant une courtoise révérence, puis se précipitaient les uns contre les autres, dans un fracas assourdissant avant de former des pics déchiquetés. Plus loin, les blocs de glace se bousculaient comme les îlots mythologiques du pont Euxin. Tout était instable comme les vagues de la mer. Tout se broyait, s'empilait, explosait. Ici, les météorites sautaient spasmodiquement. Ailleurs, la neige jaillissait en geyser ou formait des vagues écumeuses comme celles qu'on voit dans le sillage d'un navire, et le tumulte faisait sonner ses clairons dans l'espace. Je ne pouvais me tenir debout sans trébucher. Les chiens chancelaient et geignaient lamentablement. Je n'en avais cure. Dans un état demi-démentiel, je harnachai 10 d'entre eux et les attelai à mon traîneau. Je chaussai mes skis et partis vers le nord, seul. Le soleil brillait d'un doux éclat, mais ne répandait aucune chaleur. C'était une lumière limpide et cependant lointaine, fantomatique, faite pour d'autres planètes et qui ne rayonnait ici que par hasard. Un furieux vent de sud-ouest faisait voltiger des flocons de neige autour de moi. Je n'avais pas parcouru plus de 6 kilomètres d'après mon odomètre quand deux faits me frappèrent. D'abord, les météorites foisonnaient partout et remplissaient mon champ de vision d'une scintillation aveuglante jusqu'aux limites de l'horizon nordique. Ils étaient entassés en formant des parterres ou éparpillés comme des feuilles d'automne, à travers lesquelles je ne pouvais avancer qu'avec 1000 précautions. Ensuite, je remarquai qu'à part ces pierres, tous les autres obstacles avaient disparu. Le paysage n'était plus convulsé comme plus bas dans le sud. Devant moi, la glace s'étalait aussi lisse qu'une table, et j'avais l'impression que cette étendue glaciaire n'avait jamais reçu aucun choc, n'avait jamais connu aucun tourment, et formait un bloc inentamé qui descendait jusqu'au fond de l'abîme. Je fus alors pris d'une crise d'hilarité irrépressible. Je me mis à danser, à sauter, à virevolter comme un dément. J'étais en proie à une ivresse vertigineuse. Je me parlais tout seul, peut-être pour me défendre de la peur qui étreignait mon âme de sa puissante main de glace. J'étais seul en face de l'ineffable, et je bondis en avant, le cœur rempli d'une allégresse fatale. L'odomètre indiquait que j'avais parcouru 15 kilomètres depuis mon départ. J'étais dans le voisinage du pôle. Je ne sais quand cela commença, mais j'eus bientôt conscience d'un bruit clair qui tintait à mes oreilles, un léger clapotis lent et régulier comme celui d'une cascade ou d'un ruisseau. Je fis une 40aine de pas, je ne pouvais plus skier à cause des météorites, ou peut-être une 100aine, et j'arrivai, pris d'un effroi soudain, au bord d'un lac. Je vacillai, je restai là une minute, dodelinant de la tête, puis je fus pris d'une syncope. Je ne parviendrai jamais, fût-ce au bout de 100 ans, à comprendre ce qui provoqua cette syncope. Je conserve encore au fond de ma conscience cette horrible impression. Je ne voyais rien. Je tournais sur moi-même comme une toupie à bout de course vacille avant de tomber. Mais au moment où mes yeux se rouvrirent, je pus contempler un lac parfaitement circulaire qui s'étendait devant moi. Je sentis, je compris que ce lac était le sanctuaire où se trouvait enfermé le secret de la terre depuis sa naissance, et que c'était un véritable sacrilège qu'un vermisseau comme moi osa y poser le regard. Ce lac me parut avoir 1 kilomètre de diamètre. Au centre se dressait un pilier de glace peu élevé mais assez épais. J'eus l'impression, ou l'ai-je rêvé, qu'un nom était inscrit autour de ce pilier, en caractères indéchiffrables pour tout œil mortel. Sous le nom, une date occupait une large place. Le liquide du lac me semblait agité d'un frissonnement d'extase, et clapotait autour du pilier dans un mouvement d'ouest en est comme celui de la planète. Je ne sais ce qui m'incita à penser que ce fluide était la substance d'un être vivant. Mais je ne pouvais plus me fier au témoignage de mes sens, et c'est mon imagination sans doute qui me soufflait que cet être avait plusieurs yeux ternes, infiniment tristes. Dans leur mouvement circulaire, les multiples regards se dirigeaient perpétuellement vers le nom et la date marquée sur le pilier. Mais tout cela doit être folie pure. 1 heure au moins s'était écoulée avant que je reprenne conscience. Quand la pensée me vint que j'étais étendu depuis fort longtemps devant ces orbes lugubres, mon esprit poussa un gémissement et mourut dans ma chair. Cependant, en quelques minutes, je dégageai ma jambe prise dans le harnais d'un chien, et sans un regard en arrière, je m'échappai de cet endroit. À mi-chemin de notre dernière halte, j'attendis Clark et Mew, me sentant affreusement mal et incapable d'avancer. Mais ils ne vinrent pas. Plus tard, quand j'eus repris assez de force pour poursuivre ma route, je découvris qu'ils avaient péri dans le séisme. Je ne retrouvai qu'un traîneau à moitié enterré, non loin de notre bivouac. Seul, donc, je repris le chemin du sud, et pendant 4 jours, j'avançai rapidement. Le 7e jour, je remarquai au sud-est, barrant l'horizon, une couche de vapeur qui obscurcissait le ciel, et qui avait un aspect funeste. Elle avait une couleur pourpre, et, jour après jour, je constatais qu'elle restait tranquillement à la même place. Je me demandais ce que cela pouvait bien être. Je poursuivis ma route solitaire, à travers le désert blanc, le cœur étreint par une profonde angoisse. La solitude polaire pèse d'un énorme poids sur une malheureuse âme humaine. Durant les haltes, je me couchais et prêtais longuement l'oreille à cette tranquillité irrémédiablement vide. Puis, saisi de terreur, je me recroquevillais dans mon sac de couchage, espérant entendre les gémissements d'un chien. Il m'est même arrivé de sortir en tremblant de ma couche tiède pour aller fouetter un chien afin de le faire hurler. J'avais quitté le pôle avec un traîneau bien garni et les 16 chiens encore en vie après le séisme qui avait englouti mes camarades. J'avais sauvé du naufrage une bonne quantité de lait en poudre, de pemmican et diverses provisions ainsi que le théodolite, le compas, le chronomètre, le fourneau à essence pour la cuisine et d'autres matériels. J'avais pour 80 jours de vivres et je pouvais poursuivre ma route sans inquiétude. Mais 10 jours après le départ, la nourriture pour les chiens vint à manquer et je fus forcé d'abattre mes compagnons l'un après l'autre. Au bout de 3 semaines, la glace devint affreusement tourmentée et ma progression se fit de plus en plus pénible. Un ours n'y eut pas résisté. C'est à peine si je faisais 7 kilomètres par jour, et lorsque j'étais trop épuisé pour continuer, je me glissais dans mon sac de couchage, sans même ôter mes vêtements de peau raides de crasse et de sueur qui me collaient au corps, et je m'endormais comme la dernière des brutes, sans me soucier de savoir si je me réveillerais jamais. Et cette étrange vapeur pourpre ne cessait d'occuper le ciel au sud-est. On eût dit la fumée d'une conflagration mondiale qui flottait dans le ciel. Elle s'allongeait et s'épaississait constamment. Une fois, je fis un rêve plutôt agréable. J'étais dans un jardin, une sorte de paradis arabe, où il faisait bon respirer. Cependant, mon subconscient gardait l'impression de la tempête du sud-est qui soufflait en même temps sur la glace. Au moment de me réveiller, dans une sorte de demi-sommeil, je marmottais en moi-même « C'est un jardin planté de pêchers, mais je ne suis pas vraiment dans ce jardin. Je suis en réalité dans l'Arctique, et le vent du sud-est m'apporte l'arôme de ces pêchers. » J'ouvris les yeux, je sursautai et bondis sur mes jambes. Aussi absurde que cela pouvait paraître, c'était bien l'odeur des fleurs de pêcher qui flottaient dans l'air autour de moi. Avant de revenir de mon étonnement, je fus pris de terribles vomissements et je vis plusieurs chiens, pourtant squelettiques, vomir aussi. Les spasmes de mon estomac mirent longtemps à se calmer et me laissèrent dans un état de complète hébétude. Quand je repris enfin mes sens, je vis que 3 chiens étaient morts et les autres dans un état inquiétant. Le vent avait tourné au nord. Je repris mon voyage exténuant en trébuchant à chaque pas. Cette odeur de pêche, mon malaise, la mort des chiens restaient pour moi une énigme. 2 jours plus tard, je découvris une ourse et son petit au pied d'une butte et n'en pus croire mes yeux. Ils étaient morts. Elle était étendue là, comme une tache d'un blanc sale sur une couche de neige toute remuée. Elle avait un seul œil ouvert et sa mâchoire cruelle pendait. L'ourson était couché entre ses cuisses et mordait sa fourrure. Je dépeçai la bête. Sa chair me permit d'offrir au chien un repas tel qu'il n'en avait pas fait depuis longtemps. Je pus moi-même me régaler de viande fraîche, mais nous dûmes abandonner la plus grande partie de la carcasse. Je me souviens encore du peu d'empressement avec lequel je repris ma route. Une question m'obsédait. Qu'est-ce qui a bien pu tuer ces 2 ours ? Avec une obstination de brute, j'avançais toujours comme un automate. Il m'arrivait d'être terrassé par le sommeil tandis que j'aidais les chiens ou que je manœuvrais le traîneau sur une arête de glace, le tirant ou le poussant. Le 3 juin, 1 mois et demi après mon départ, je fis une observation au théodolite et constatai que je n'avais parcouru que 700 kilomètres depuis le pôle. Je venais seulement de dépasser le 84e degré de latitude. Il semblait qu'une force supérieure s'opposait à mon avance. Cependant, le froid avait diminué d'intensité et mes vêtements ne m'en serraient plus comme une armure rigide. Je rencontrais des mares d'eau dans les creux de glace et bientôt, ce qui n'arrangeait rien, je dus faire franchir à mon traîneau de difficiles escarpements. Je m'aperçus également que je n'avais pas à craindre de mourir de faim. Le 6 juin, je trouvai un ours mort. J'en trouvai 3 le 7, et ils devinrent de plus en plus nombreux les jours suivants. Je ne rencontrai pas que des ours, mais aussi des pétrels, des guillemots, des bécasses, des mouettes et d'autres oiseaux. Toutes ces bêtes gisaient sur la glace. Rien de vivant ne venait à mon secours, ni à celui des chiens qui me restaient. J'étais confondu par ce mystère. Le 2 juillet, la glace commença à bouger dangereusement, et bientôt une nouvelle tempête se leva du sud-ouest. Je décidai de ne pas aller plus avant, et je plantai ma tente de soie sur un plateau glaciaire de quelques 2 hectares, entouré de crevasses. Pour la seconde fois, l'odeur se répandit dans l'air. J'étais couché, je respirais cet étrange et délicat parfum de fleurs de pêcher. Une seule bouffée me causa de violentes nausées, mais en moins d'une demi-heure, mon malaise disparut. La banquise était à présent toute crevassée, mais aucun chenal ne se dessinait en direction de la mer libre. Mon existence était si misérable que souvent je tombais prostré sur la glace en sanglotant « Mon Dieu, laissez-moi mourir là !» Pour franchir une crevasse, il me fallait parfois jusqu'à 10 ou 12 heures, et à peine étais-je venu à bout d'un obstacle qu'un autre se présentait, puis un autre encore. Le 9 juillet, un chien mourut subitement après avoir mangé du gras de baleine. Nulle âme humaine ne fut plongée dans de plus noirs abîmes que la mienne pendant ces 4 mois d'errance sur la banquise. J'étais devenu une brute, mais j'avais conservé un cœur humain. Ce que j'avais vu ou rêvé au pôle ne cessait de me hanter, et quand, exténué de fatigue, je fermais les yeux, d'autres yeux là-bas semblaient poser sur moi leur regard halluciné, et dans mes rêves les plus sombres tournoyait l'extase éternelle du lac. Ce fut aux environs du 28 juillet que je me rendis compte, à l'aspect du ciel, et parce que la glace n'était plus faite d'eau douce, que la mer n'était plus loin. Je passai 2 jours à remettre en état mon kayak, assez malmené au cours du voyage, et j'avais à peine repris ma course que j'aperçus à l'horizon, dans la brume, une mince bande striée de noir. Ce ne pouvait être que les falaises de la terre François-Joseph. Fou de joie, je restai cloué sur place, en faisant tournoyer au-dessus de ma tête mon bâton de ski, en riant et en hoquetant comme un vieillard gâteux. 3 jours plus tard, cette terre m'apparut d'une manière assez précise. Je distinguai des apics de basalte et des glaciers qui semblaient former une large baie, ainsi que 3 îles à mi-distance. À l'aube du 5 août, je parvins à l'extrême limite du glacier. Le temps était doux, il le faisait environ 0 degré. Il fallait que je me sépare de mon dernier chien, et ce n'est pas sans une grande répugnance que je tuai Reinhardt, un Sibérien à poils blancs. Cela fait, je transportai mes dernières provisions ainsi que le matériel nécessaire dans le kayak. J'avais hâte d'être sur l'eau après tant de tribulations, et après 14 heures de navigation, je longeai cette terre ceinte d'un bourrelet de glace. Il était minuit, le soleil rougeoyant se couchait à l'horizon dans un nuage de brume, tandis que mon léger esquif, poussé par ma petite voile à bourser, tracer sa route sur la mer silencieuse. Un silence total. Pas un phoque, pas une mouette, aucun animal ne trahissait la présence de la vie. Tout était silencieux comme le sombre reflet des rocs ou de la glace. Mais de nombreux cadavres flottaient sur l'eau. J'atteignis un fjord et je le remontai jusqu'au fond. Là, je découvris un alignement de colonnes de basalte qui évoquait un temple antédiluvien en ruine. Quand mon pied toucha enfin la terre ferme, je tombai à genoux dans la neige et demeurai la tête courbée pendant très, très longtemps. Je pleurai en silence. Cette nuit-là, mes yeux ruisselaient de larmes. La terre ferme est la santé et la raison, elle est indispensable à la vie humaine et chère au cœur de l'homme, tandis que l'inclémente étendue des glaces est un cauchemar démentiel et le royaume des puissances des ténèbres. Je savais qu'à la terre François-Joseph, je n'étais pas loin du cap Fligely, à 82 degrés de latitude nord environ. Et bien que la saison fût avancée et qu'il fît froid, j'avais encore l'espoir d'atteindre le Spitzberg avant la fin de l'année, soit en naviguant sur la mer libre, soit en tirant mon kayak sur la glace. Comme la glace que je voyais était bien lisse, ce projet me paraissait parfaitement réalisable. Aussi, après avoir longé la côte pendant quelque temps et pris 3 jours de repos au pied des colonnes de basalte qui bordaient le littoral, j'embarquai à bord du kayak une provision de viande d'ours et de phoque qui vint s'ajouter aux conserves qui me restaient. Je partis le matin et cabotai jusqu'au soir, le long des rives glacées, à la voile ou à la pagaie. Après avoir escaladé un iceberg, je me rendis compte que j'étais dans une baie dont les promontoires étaient invisibles. Je décidai donc de faire directement route à l'ouest-sud-ouest pour en sortir. Mais j'avais à peine quitté la terre de vue qu'une tempête du nord vint me surprendre, et à minuit, avant d'avoir pu manœuvrer, ma petite voile fut emportée et mon kayak se retourna. Je m'en sortis et sauvai le kayak, car, par chance, un bloc de glace flottait non loin de là, et je pus y prendre pied. Je restai là toute la nuit, grelottant sous les rafales de vent et les paquets de mer qui me submergeaient à moitié. Heureusement, mes instruments et mes provisions étaient restés coincés sous le pont du kayak quand il chavira. Cependant, quand j'eus regagné la côte, je compris qu'il me fallait abandonner tout espoir de rencontrer un baleinier, et que je ne rentrerai pas en Europe cette année. À une centaine de mètres du rivage, dans un creux où apparaissaient de la terre et de la mousse, je me construisis une hutte d'Esquimaux à moitié enterrée, afin de pouvoir hiverner pendant la nuit polaire. Le site était entouré de murailles de basalte, sauf à l'ouest, où, par une anfractuosité, on apercevait la mer. Le sol était parsemé de plaques et de galets de basalte et de granit. À certains endroits, la neige était colorée en rouge par une sorte de lichen que je pris d'abord pour des taches de sang. J'y trouvai une ourse morte avec ses 3 oursons et un renard. Ils avaient dû tomber des rochers. Comme je craignais que des ours vinssent rôder dans les parages, je pris soin de bien protéger ma hutte. Ce travail m'occupa pendant un bon mois, car je n'avais d'autres outils qu'une hachette, un couteau et le bout ferré de mon bâton de ski. Je creusai dans la terre un couloir de 50 cm de large, profond d'autant et de 3 mètres de long, avec des murettes perpendiculaires. Du côté nord, je creusai de même un espace arrondi de 4 mètres de diamètre, avec un pourtour régulier que je garnis de blocs de pierre. Je couvris toute l'excavation de peaux de morse épaisses de 25 mm. Ces peaux provenaient de 4 bêtes qui gisaient, parmi beaucoup d'autres, sur la rive glacée. Comme pilier central, j'utilisais un gros éclat de roc que je trouvais non loin de là. Malgré ce pilier, le toit était presque plat. Quand j'eus achevé ces travaux, j'entassai à l'intérieur toute la nourriture dont je pus disposer, et de l'huile de baleine qui pouvait me servir aussi bien pour me chauffer que pour m'éclairer. Le toit de la partie ronde, comme celui du passage, fut vite recouvert de neige, et bientôt ma hutte se confondit complètement avec le reste du paysage. Pour traverser le couloir, je rampais sur les mains et les genoux, mais cela m'arrivait rarement. J'hivernais dans la salle ronde, assis la plupart du temps, replié sur moi-même, frissonnant, prêtant l'oreille au rugissement des ténébreux orages qui, de l'extérieur, ébranlaient ma solitude. Pendant ces longs mois, une pensée m'accablait et une question lancinante tournoyait inlassablement dans mon esprit mélancolique. Tout autour de moi, ce n'était que cadavres d'ours, de phoques, de renards et de centaines de milliers d'oiseaux de toutes les espèces. Je n'avais aperçu de vivant que quelques rares phoques sur un iceberg en dérive. Il était clair qu'un cataclysme inconcevable avait ravagé cette région au cours de l'été, détruisant toute vie à part quelques amphibies, cétacés et crustacés. Le 7 décembre, comme j'étais sorti de ma hutte pendant une tempête du sud, je respirais distinctement, pour la troisième fois, l'étrange odeur de fleurs de pêcher, sans ressentir cette fois aucun malaise. De nouveau, ce fut Noël, le nouvel an, puis le printemps. Le 22 mai, je partis dans mon kayak bien garni. La mer était pratiquement libre et la glace était si agréable qu'en un endroit je pus la traverser à la voile, le vent me faisant glisser à bonne allure. J'étais sur la côte ouest de la terre François-Joseph et ma situation était très favorable. Je mis le cap au sud, l'espoir au cœur. Je restai 4 jours en vue de la terre. Le soir du 4e jour, je remarquai un iceberg d'un gracieux aspect. Il semblait couvert d'une profusion de roses qui se reflétaient dans son cristal. Je m'approchai et je vis des millions de mouettes du détroit de Ross, toutes mortes. Leur poitrine rose était la cause de cette floraison. Jusqu'au 29 juin, j'avançai rapidement en direction sud-sud-ouest. Il faisait un temps merveilleux. Je rencontrais parfois des ours morts sur des icebergs flottants, parfois des troupeaux de morses, morts ou vivants, et par populations entières, des cadavres d'hirondelles de mer, de mouettes, de skuas, toutes espèces d'oiseaux qui peuplent l'Arctique. Ce jour-là, le 29, comme je m'apprêtais à camper sur un iceberg, peu après minuit, et que je regardais dans la direction du soleil, mon regard fut attiré par quelque chose loin vers le sud, qui tranchait sur les innombrables glaces flottantes, les mâts d'un navire. Était-ce un bateau fantôme ou un bateau réel ? Peu m'importait. Sur le moment, j'avais peine à croire qu'il fût réel. Mais devant une apparition aussi surprenante, mon cœur se mit à battre à coups redoublés, et faisant tournoyer ma pagaie au-dessus de ma tête, mes genoux se dérobèrent et je m'écroulai évanoui. Cependant, la perspective de redevenir une personne normale l'emporta envers et contre tout. Je vivais comme une bête au pouvoir de Circé. À cette époque, en effet, je déchirais ma viande avec les dents comme un animal et je me lavais les mains dans du sang de morse pour leur donner une apparence de propreté d'un rose visqueux et les débarrasser de cette crasse noire dont elles étaient périodiquement recouvertes. Malgré mon immense fatigue, je partis aussi vite que je le pus à la rencontre du navire. Après 4 heures de route, par mer et sur la glace, j'eus l'indicible joie de découvrir, au sommet d'un iceberg, que ce navire était le Boréal. C'était plutôt étrange de le retrouver dans ces parages. J'en conclus qu'il avait dû quitter son mouillage et dériver vers l'ouest, loin de l'endroit où nous l'avions laissé dans les glaces. Peut-être s'attardait-il par ici, dans l'espoir de nous recueillir sur le chemin de retour vers le Spitzberg. Quoi qu'il en soit, je me hâtais comme un forcené pour parvenir jusqu'à lui. Mes lèvres étaient contractées par un rictus hilar, en imaginant le plaisir qu'aurait l'équipage de me retrouver, et l'excitation des hommes quand je leur raconterai l'aventure sensationnelle de la conquête du pôle. De temps à autre, j'agitais ma pagaie tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas encore m'apercevoir, puis j'en frappais sauvagement l'eau blanchâtre. Je m'étonnais cependant de voir sa grand-voile et sa misaine établie par ce matin tranquille, tandis que ses hélices étaient arrêtées. Le soleil levant répandait sa lumière froide sur un océan encombré d'icebergs éblouissants. Une teinte rose effleurait toute chose. Le paysage faisait penser à une jeune mariée morte subitement dans ses atours et ses parures. Le Boréal était le seul point noir dans cette immense pureté. Et je pagayais haletant comme si j'étais sur le chemin du paradis. Mais à 9 heures du matin, je me rendis compte que le bateau avait une allure étrange. Deux des barres du cabestan avaient disparu. Son pont était affaissé à tribord. Un canot pendait de travers. Un peu après 10 heures, je vis que sa grand-voile était déchirée sur toute sa longueur. Je n'y comprenais rien. Le bateau n'était pas mouillé sur son ancre, mais une ancre de veille pendait au bossoir de tribord. Deux petits icebergs bombardaient paresseusement son étrave de chaque côté. J'agitai à nouveau ma pagaie, retenant ma respiration, fou d'énervement. Chaque seconde me paraissait une année. Je reconnus bientôt un matelot qui, penché sur l'avant, regardait de mon côté. Quelque chose me dit que c'était Salite, et je lançai à plein poumon « Hola, Salite ! Hola ! Oh !» Mais il ne bougea pas. Il restait sur place, appuyé contre la rambarde, le regard perdu dans ma direction. Malgré les glaces flottantes, l'eau était libre entre moi et le Boréal, et mon impatience était à son comble de le voir si proche. Je faisais bondir le kayak en donnant de violents coups de pagaie, et j'agitais l'eau comme un enragé. En même temps, je remplissais l'air de mes rugissements. « Hola ! Oh ! Bravo ! J'ai été au pôle !» Vanité des vanités. J'approchais de plus en plus. Il faisait grand jour. Il devait être aux environs de midi. J'étais à 500 mètres, à 50 mètres. On aurait dû me voir, m'entendre du Boréal. Pourtant, je ne remarquais aucun mouvement, aucune rumeur de bienvenue. Tout était calme, calme comme la mort, dans ce calme matin de l'Arctique. Seules les voiles déchirées s'agitaient mollement, et de chaque côté, deux morceaux de glace bombardaient paresseusement l'étrave avec un bruit sourd. J'étais sûr maintenant que c'était Salite qui regardait la mer, mais lorsque le navire dériva un peu, je remarquai que la direction de son regard suivit le mouvement. Il ne regardait plus de mon côté. « Alors, Salite ! Salite ! Oh, matelot !» lui criai-je sur un ton de reproche, et ma voix se brisa. C'est alors qu'une terrible certitude me traversa l'esprit. Un parfum de pêche provenait du Boréal, et je me rendis compte que les yeux fixes de Salite ne voyaient rien et que tous les hommes du Boréal étaient morts. En fait, j'observai qu'un de ses yeux avait la consistance du verre quand il glissa de côté en lançant un regard vide de toute expression. Mon corps faiblit une fois de plus, ma tête tomba en avant et je demeurai pétrifié dans mon kayak. Au bout d'un moment, je me risquai à examiner avec plus d'attention le navire errant à l'abandon. Il était là, immobile, tragique, comme s'il se sentait coupable de transporter cette lugubre et fatale cargaison. Salite avait les yeux grands ouverts. Je compris ce qu'il faisait là. Il s'était penché pour vomir, et il n'avait pas bougé depuis lors, son avant-bras sur la rambarde, son genou gauche appuyé contre le bastingage, son épaule gauche contre le bossoir. Son visage était agité d'un tremblement à chaque secousse de la glace contre l'avant. Sa tête était légèrement inclinée et il n'avait pas sa casquette, contrairement à ses habitudes. La brise faisait voleter ses cheveux longs. Je n'avais plus envie d'approcher, j'avais peur, je n'osais pas. Un silence sacré pesait sur ce bateau. Jusqu'au soir, j'observais sa lourde coque noire. La frange d'algues qui ondulait sur la ligne de flottaison prouvait qu'il était à l'abandon depuis longtemps. On avait sans doute tenté d'amener ou de mettre à l'eau la chaloupe en bois de mélèze, car elle était suspendue au bossoir par un filin en mauvais état, la poupe en l'air, l'avant dans l'eau. Les deux barres restantes du cabestan allaient de côté et d'autre en grinçant sur deux notes énervantes. Quelques vêtements qui avaient été étendus sur l'avant pour sécher étaient encore là. Les ferrures des bossoirs étaient complètement rouillées. Le gréement, en certains endroits, présentait un fouillis indescriptible. Le bout dehors allait et venait dans un mouvement circulaire, avec une cadence exaspérante. La voile qui claquait mollement avait dû se déchirer à force de rester exposée aux intempéries. car le bateau n'avait certainement pas rencontré de gros temps. À part Salite qui restait le regard fixe tel que la mort l'avait pris, je ne vis personne sur le pont. Vers 4 heures de l'après-midi, je me décidai enfin à aborder le Boréal. À la terreur qu'il m'inspirait, s'ajoutait ce parfum qui émanait de sa coque et dont je connaissais les funestes effets. Cependant, le fait d'avoir pu m'en approcher si près sans être incommodé prouvait que, désormais, le danger était passé, aussi redoutable qu'il ait pu être. Finalement, j'attrapai un filin qui pendait et, très ému, je grimpai sur le pont. Selon toute apparence, ils étaient morts subitement, car les 12 hommes de l'équipage avaient presque tous été surpris dans leurs occupations. Egan était en train de gravir l'échelle du carré. Lamburn, assis contre la porte de la chambre des cartes, nettoyait sans doute les cabines. Hodling, au pied de l'échelle de la chambre des machines, semblait traîner une paire d'andouillés de rennes. Cartwright, qui était souvent pris de boisson, avait le bras gelé autour du cou de Martin et semblait l'embrasser. Tous deux gisaient au pied du mât de misaine. Partout, sur toute chose, les hommes, le pont, les cordages, au carré des officiers, dans la chambre des machines, entre les claires-voies, sur chaque partie de la bocquière, dans la moindre fissure, une sorte de cendre ou de poussière pourpre s'était déposée. Et d'un bout à l'autre du bateau régnait, comme l'esprit même de la mort, une persistante odeur de pêche. Cette odeur stagnait là depuis un an. Je pouvais en juger d'après les dates du journal de bord, la rouille des machines, l'aspect des corps et à 1000 autres indices. Les vents et les courants seuls avaient conduit ce navire funeste à l'endroit où je l'avais rencontré. Je compris alors que la puissance, ou les puissances, peu importe, qui, tout au long de l'histoire, avaient pris tant de précautions pour éviter que l'homme eût conscience de son existence, ne cherchait plus à se dissimuler et avait définitivement posé sa main sur ma tête. Tout se passait comme si je n'avais pas retrouvé le Boréal par hasard, mais par le fait d'une volonté dont je ne devinais rien, mais qui me paraissait évidente. La poussière, fine et légère sur le pont, formait un dépôt épais à l'intérieur du navire. Quand je l'eus parcouru de bout en bout, j'entrepris d'examiner cette poussière sans plus attendre, malgré la faim et une immense fatigue. Ayant retrouvé mon microscope, que j'avais laissé dans ma cabine à tribord, j'entrai dans la chambre des cartes, en déplaçant Lamburn et en passant par-dessus Egan. Je m'assis devant la table et je me penchai sur la poussière pour étudier sa composition avec l'impression que les myriades d'esprits humains qui avaient séjourné sur la terre, les anges et les démons, le temps et l'éternité, se tenaient derrière moi pour attendre mon verdict. J'étais dans un tel état de fièvre que, pendant un bon moment, mes doigts tremblants, comme atteints d'un taxi, refusaient d'obéir à ma volonté et je ne pouvais régler mon microscope. Je savais naturellement qu'une odeur de fleurs de pêcher provoquant la mort devait être associée aux effluves de cyanogène ou d'acide hydrocyanique, prussique ou O2. Quand enfin je parvins à examiner un résidu de poussière, je ne fus pas surpris d'y trouver quelques cristaux jaunâtres qui ne pouvaient être que du ferrocyanide de potassium. Ce que ce ferrocyanide de potassium venait faire à bord du Boréal, je n'en avais pas la moindre idée. Je n'avais pas non plus les moyens ni la force d'esprit nécessaire pour approfondir la question. Je comprenais seulement que, pour une raison ou une autre, l'air de cette région, au sud des terres polaires, avait été imprégné par un gaz qui était soit du cyanogène, soit un sous-produit du cyanogène. D'autre part, ce gaz s'était ou bien dissous dans la mer, ou bien dispersé dans l'espace. Je demeurai là un bon moment, complètement hébété. Je soupçonnais le pire, et j'avais peur. je découvris que le Boréal avait à son bord suffisamment de provisions contenues dans ses caisses ou des tonneaux étanches à l'abri de la poussière mortelle pour me permettre de tenir peut-être 40 ans. 2 jours plus tard, après avoir gratté et lavé à l'eau bouillante la crasse qui me collait à la peau depuis 15 mois et m'être réconforté avec une nourriture plus saine, je passai tout le bateau en revue. Je mis 3 jours à graisser et à nettoyer les machines. Cela fait, je traînai mes 12 morts dans la chambre des cartes et je les étendis en 2 rangs sur le plancher. Enfin, je hissai à bord, par reconnaissance, le pauvre petit kayak qui m'avait si bien servi au cours de mes tribulations. Et à 9 heures du matin, le 6 juillet, une semaine après avoir retrouvé le Boréal, je descendis dans la chambre des machines pour les remettre en marche. Les hélices, selon les procédés les plus modernes, étaient actionnées par un flux d'air liquide qui, passant à travers des tubes capillaires, explosait dans une chambre à soupape latérale. Ce moteur permettait au Boréal, malgré sa coque renflée, d'atteindre une vitesse de 16 nœuds. C'était un jeu d'enfant que de manœuvrer ce genre de bateau sur toutes les mers du globe. Il suffit d'appuyer sur un levier pour mettre le moteur en marche, à condition que celui qui exécute ce geste ne soit pas projeté en l'air, car l'air liquide, en dépit de tous ses avantages, produit un souffle brutal dont il faut se méfier. En tout cas, j'avais des réservoirs d'air pour 12 ans de navigation. De plus, une machine permettait de le fabriquer et je trouvais 40 tonnes de charbon en cas de besoin dans les soutes, ainsi que 2 chaudières Belleville. J'étais donc bien pourvu en fait de moteur. La glace était complètement désagrégée et je n'avais jamais vu un temps aussi clair et aussi agréable dans l'Arctique. La température atteignait 10 degrés au-dessus de zéro. Je m'aperçus que j'étais à mi-chemin de la Terre François-Joseph et du Spitzberg, par 79 degrés 23 minutes de latitude et 39 degrés de longitude. Ma route était libre. Je ne sais quel espoir mélancolique me remplissait le cœur quand les moteurs prirent leur rythme de marche et que les hélices commencèrent à faire bouillonner l'océan. Je m'élançai sur la passerelle, pris la barre en main et mis cap à l'ouest-sud-ouest.